Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Toutes et bonjour à tous, c'est Marion de Briançon dans votre magazine du midi sur Fréquence Mistral, à la bonne heure. Nous parlerons aujourd'hui d'un gaz naturel encore mal connu, voire méconnu, le radon. Pourtant ce gaz a été reconnu cancérigène pulmonaire pour l'homme depuis 1987 par le Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC de l'Organisation mondiale pour la santé, l'OMS. Aujourd'hui, nous en parlons puisque ce mois-ci, il y avait la journée européenne du radon, le jeudi 7 novembre, date anniversaire où Marie Curie a découvert le radium. Une politique de prévention est mise en œuvre, nous en parlerons. Et pour en parler et nous présenter ce gaz et ses risques, nous accueillons Catherine Schlouk. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Vous êtes animatrice à GAP. Science Animation 05, GSA 05, c'est bien cela ?
C'est bien ça.
Peut-être rapidement, vous pouvez nous présenter cette association ?
Donc on est une association de médiation scientifique. Donc on installe des liens entre la science, les scientifiques et le grand public. Donc il y a une part de vulgarisation dans ce qu'on propose, mais ce qui est important en fait, c'est d'avoir un échange avec le public sur toute thématique scientifique, et on se situe dans les Hautes-Alpes, donc notre public c'est tous les Hauts-Alpins.
Tous les Hauts-Alpins, pas seulement à Gap.
Pas seulement à Gap.
Et vous êtes spécialisée entre autres sur la question du radon ?
Alors, on traite de nombreuses thématiques scientifiques, et depuis 2018, moi j'ai développé des médiations scientifiques sur la thématique de la qualité de l'air intérieur, dont le radon fait partie. En fait, le radon fait partie des polluants de l'air intérieur. Et donc, on a développé des activités pour tous les publics pour découvrir cette thématique-là en particulier.
Puisque je disais que ce n'est pas encore un sujet très connu, est-ce que c'est vraiment le cas ? Vous l'observez, vous, dans le public que vous avez ?
Oui, surtout quand on a commencé, c'était vraiment quelque chose de très peu connu ici, localement. Les gens n'étaient pas au courant de ce que c'était, alors qu'on fait partie des départements concernés par ce problème-là. En France, il y a 31 départements considérés comme prioritaires pour le risque radon. On en fait partie dans les Hautes-Alpes. Il y a d'autres départements en région PACA qui sont concernés également. Et quand on a commencé, effectivement, les gens ne savaient pas de quoi il s'agissait. Maintenant, ça fait quelques années qu'on travaille sur une sensibilisation du public sur ce sujet-là, et ça commence un petit peu à venir. On a de plus en plus de gens qui s'y intéressent, qui s'en préoccupent dans le département. Mais il y a encore du travail à faire.
Justement, on va pouvoir présenter tout cela et en parler. Mais juste avant, on écoute notre chronique littéraire hebdomadaire réalisée avec la librairie Voyage au bout des livres. On écoute tout de suite Anaïk.
La sélection de la librairie Voyage au bout des livres.
Bonjour à tous et à toutes, c'est Anaïk de la librairie Voyage au bout des livres à Briançon et je suis avec vous cette semaine pour vous parler de quelques-unes de nos pépites. Donc, tout d'abord, un roman paru aux éditions du Sonneur, qui est une maison d'édition qui fait vraiment un boulot magnifique au niveau de la reliure, de la qualité du papier ou même parfois de ses illustrations de couverture, voire de livres. Donc celui-ci, c'est un roman de Céline Righi qui s'appelle « Les choses de la nuit ». C'est l'histoire de Henry Dawson, un trompettiste de jazz très connu, qui le soir de ses 50 ans va faire un retour en arrière sur sa vie et notamment sur l'accident qui lui a coûté sa main et donc sa passion pour la musique. Pour ce 50e anniversaire, il va se remémorer du coup toutes les étapes de sa musique dans une écriture d'ailleurs de l'autrice qui va être très très rythmée, qui va nous rappeler parfois la complexité d'une partition de jazz. Et il va prendre une décision plutôt surprenante pour fêter ce 50e anniversaire et pour rendre hommage à la musique qui était absolument toute sa vie et qui ne peut plus jouer du fait de son handicap. Pour vous parler de ce livre beaucoup mieux que moi, on a l'autrice Céline Rigui qui sera là demain, mercredi 20 novembre à 18h30 à la librairie, pour animer une rencontre autour de son roman. Ces formats de rencontres sont vraiment ouverts à tous et à toutes. Pas besoin d'avoir lu le livre, pas besoin de l'acheter non plus à la fin. C'est vraiment un moment d'échange, de partage, où on peut poser des questions sur l'écriture, l'édition, le monde du livre, ou évidemment sur le roman dont l'autrice vient nous parler. Donc voilà. Ensuite, je voulais vous parler d'un nouveau livre de Émilie Vast, qui est une illustratrice jeunesse qui publie régulièrement aux éditions Mémo. On la connaît par son graphisme et la sobriété de ses images de plantes et d'animaux qui font vraiment sa marque. Et celui-ci s'appelle « Tellement bien ensemble ». Donc de Émilie Vast, et il va nous parler de la symbiose qui peut exister entre des animaux et des plantes, des espèces totalement incongrues qu'on pourrait ne pas imaginer ensemble. Donc elle va des plus classiques, de l'abeille et de la fleur, en passant par une miguel mexicaine et une petite grenouille. Donc c'est toujours aussi beau et ça fait plaisir de voir des livres pour enfants avec une telle qualité graphique. Ensuite, pour les ados, on a le nouveau tome des Grimoires d'Elfie de Harleston, Alouette et Mini Ludwin. C'est publié chez Dracou. Et le tome 5 des Grimoires d'Elfie s'appelle donc Les Reflets de Walpurgis. Cette fois-ci, Elfie, avec ses deux sœurs, prennent le bus librairie pour aller dans une fête de la sorcellerie et des fées, celle de la fée Mélusine et de son village. Donc elles vont toutes ensemble se retrouver avec d'autres sorciers et sorcières pour fêter ce solstice. Et la fée Mélusine va venir en personne demander l'aide d'Elfie pour contrer les promoteurs immobiliers qui sont en train d'assécher les marais et donc de mettre en danger toute leur biodiversité. Cette fois-ci, on va parler du coup de méga-bassines et de magie en même temps. C'est super intelligent. Ensuite, et ça c'est vraiment la meilleure nouvelle du mois, on a enfin reçu le tome 2 de 1629 ou l'effrayante histoire des naufragés du Jakarta de Xavier Dorisson et Timothée Montaigne. C'était vraiment notre BD favorite il y a 2 ans. Le tome 1 nous avait complètement bluffés. On retrouve un scénario d'une qualité dingue avec Xavier Dorisson, des dessins de BD classiques et irréprochables de Timothée Montaigne. Et c'est l'histoire d'une mutinerie absolument atroce sur un bateau de la Vogue. Donc la compagnie, et c'est vraiment en 1629, c'est l'époque où la compagnie des Indes allait exploiter les marins pour essayer d'en faire un maximum de profit possible. Et donc ce bateau-là se retrouve échoué sur une île totalement livrée à la merci d'un chirurgien et apothicaire aux idées de terreur, disons. Et voilà, donc là on a le dénouement, la BD est en 2 tomes et ça fait 140 pages, c'est aussi glauque que prévu, même si les auteurs précisent à la fin avoir essayé d'atténuer les atrocités qui ont été commises à ce moment-là à Jakarta. C'est vraiment pour moi une des plus grandes BD des dernières années. N'hésitez pas, ça fait un cadeau de Noël idéal.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Bienvenue au magazine régional Sud-Est de Fréquence Mistral.
Vous écoutez Fréquence Mistral, nous sommes dans le magazine À la bonne heure, comme vous venez de l'entendre. Et nous sommes avec Catherine Schlouk, animatrice à Gap Science Animation 05, ou GSA 05, qui est présente pour nous expliquer ce qu'est le radon, un gaz naturel radioactif dont on entend parler en ce moment par une politique de prévention pour la santé. Alors avant d'en parler, nous venons d'écouter Anaïk de la librairie Voyage au bout des livres. Vous aimez lire, Catherine ?
Oui, oui.
Est-ce que vous avez un coup de cœur ou un livre de chevet à nous partager ?
Alors, ce n'est pas forcément un livre de chevet, c'est plutôt un livre que j'ai aimé découvrir quand j'ai commencé à travailler sur la thématique de la qualité de l'air et du radon.
On reste dans le sujet, alors.
On reste dans le sujet. Et c'est un livre qui s'appelle Radium Girl, qui a été dessiné, c'est un album, donc pour les adultes. Il a été dessiné par Cyrielle Évrard, dite Si, et c'est un livre qui évoque, dans les années 1920, la découverte des effets nocifs sur la santé du radium, puisqu'on parle des femmes, donc en Amérique, des femmes qui étaient chargées de peindre des aiguilles de montre pour l'armée, avec une peinture phosphorescente, une peinture qui contenait du radium et qui permettait de voir donc les montres des militaires dans l'obscurité, de voir les aiguilles. Et donc ces femmes sont malheureusement connues parce qu'elles ont été les premières victimes du radium. Elles l'utilisaient au quotidien dans leur travail et petit à petit on a vu différentes maladies émerger chez ces personnes-là. Donc c'est un récit historique de cette problématique des substances radioactives qui autrefois étaient utilisées sans connaître leurs effets sur la santé.
C'est parfait, ça nous permet de rentrer directement dans le sujet. Ce livre, donc livre à découvrir, qui s'appelle, vous pouvez le rappeler ?
Radium Girls.
Radium Girls. Justement, quelle est l'histoire de cette découverte de la nocivité de ce gaz ?
Donc pour le radon, donc il y avait des mines d'uranium en France, sachant que le radon est un gaz donc radioactif qui provient de la désintégration. Au départ, c'est de l'uranium qui se désintègre, qui donne différents autres éléments. Et à un moment donné, on a du radium qui donne du radon. Et donc, en France, on avait des mines d'uranium, notamment dans le Massif central. Et on s'est aperçu que des mineurs, donc qui travaillaient au contact de ces roches qui dégageaient donc du radon, avaient une prédisposition à des cancers du poumon. Donc ça, c'est vraiment l'origine, la découverte des effets sur la santé dû au radon.
Il y a eu tout un processus, alors peut-être juridique ou de reconnaissance ?
Alors, je pense que la science a avancé, a cherché, a expliqué,
à
comprendre. Et encore aujourd'hui, ce n'est pas évident d'attribuer au radon les maladies que l'on peut observer. C'est encore délicat. Aujourd'hui, on considère que le radon est responsable de entre 2000 et 3000 morts dû au cancer du poumon
en France,
mais c'est pas évident d'attribuer ces maladies au radon. Ça reste encore difficile, sachant que le radon est le second responsable des cancers du poumon après le tabac.
Donc quand même, il y a quand même des chiffres, des données,
important, oui,
c'est quand même
oui,
reconnu
oui,
en tout
oui,
cas,
tout à fait,
comme on disait
tout
par
à
l'OMS.
Fait, tout à fait.
D'accord. Mais on parlait là des mines, sauf que ces cas-là dont on parle sont dus non pas à l'extraction, mais au gaz naturel qui sort des roches autour de nous,
c'est
si
ça.
J'ai bien compris.
C'est ça.
Je parle
donc
de roches,
en fait,
je ne suis pas sûre.
Oui,
qu'est-ce
oui,
que
oui.
le radon vient-il, en fait ?
Donc, le cas des mineurs dans les mines d'uranium, ça a permis de voir ce problème, parce qu'ils étaient exposés à des quantités importantes de radon qui émanent des roches, puisqu'on se trouve donc dans des mines, donc sous terre, dans des cavités, donc dans des endroits clos, fermés, où le radon peut s'accumuler. Donc on a eu des quantités importantes de radon à ce moment-là. Aujourd'hui, on est exposé au quotidien, tout un chacun peut être exposé au quotidien, si le radon qui émane des roches remonte à la surface et sur son parcours rencontre des bâtiments, des habitations, des bureaux, n'importe quel bâtiment. Si le radon est capable de rentrer dans ces bâtiments, comme il le faisait dans ces cavités, dans ces mines, eh bien le radon peut s'y accumuler et par effet de confinement, si on n'aère pas, si on ne ventile pas, le radon peut atteindre des quantités importantes dans les habitations. Et là, c'est là qu'il devient dangereux pour la santé, parce que on est exposé à des quantités importantes et en général c'est sur la durée. Donc au bout de plusieurs années, le risque va augmenter, puisqu'on s'expose à des quantités importantes sur la durée.
Donc si on est à l'extérieur, il n'y a pas de risque?
Non, puisqu'en fait le radon, il fait partie des gaz qui sont présents dans l'air naturellement. Quand le radon émanant des roches remonte à la surface, il va être extrêmement dilué dans l'air s'il remonte à un endroit où il n'y a rien qui va le contraindre. Il va être extrêmement dilué. Les proportions de radon dans l'air que l'on respire à l'extérieur sont extrêmement faibles. Le problème va se situer quand il va être concentré.
Concentré. Et alors, comment il se concentre, comment il rentre dans les bâtiments
donc,
ce radon ?
Il peut rentrer dans les bâtiments donc, au niveau de l'interface entre le sol et le bâtiment. Donc surtout au niveau des sous-sols. Et il peut rentrer par des... Il n'y a jamais une étanchéité à l'air absolue. On a toujours des petits passages. Là où l'air peut passer, le radon peut passer. Ça peut être des défauts d'étanchéité au niveau de la dalle et du mur, par exemple. Il y a souvent des petits passages à ce niveau-là qu'on ne voit pas forcément parce qu'on va mettre un revêtement sur le sol, des plinthes. Du coup, on ne voit pas forcément les petits passages à ce niveau-là. Ça peut être des fissures dans la dalle. Ça peut être le matériau lui-même qui est poreux et qui laisse passer l'air, donc le radon aussi. Ça peut être aussi des passages de réseau, des conduites, des passages de câbles. On perce la dalle, on fait passer les réseaux. Et souvent, il arrive qu'on referme mal ce trou percé. Donc le radon peut passer à côté des conduites. On peut aussi avoir du radon qui rentre, qui provient. Alors c'est pas le cas ici dans les Hautes-Alpes ou en région PACA. Dans certains bâtiments qui sont construits en pierre, en granit par exemple, on peut avoir du radon qui diffuse depuis les roches elles-mêmes.
Ah oui, donc depuis le matériau de construction.
C'est ça.
Mais ça reste longtemps dans la roche ?
Oui. Donc en fait, le radon est un gaz radioactif. Il a une durée de vie qui est assez courte, mais il est produit en continu, puisque à l'origine, il vient de l'uranium, et l'uranium a une durée de vie conséquente, plusieurs milliards d'années. Donc il y en aura toujours.
Il y en aura toujours. On n'est pas prêt toujours. En tout cas. D'accord.
Voilà.
Donc c'est pour ça que ça continue d'être diffusé, propagé, et c'est un gaz qu'on ne sent pas.
On ne le sent pas, on ne le voit pas, il n'a pas de goût, pas de saveur, on ne se rend pas compte de sa présence.
D'accord. Et les systèmes de ventilation naturelle des maisons, des bâtiments ne suffisent pas à ce qu'ils circulent.
Alors justement, il va y avoir des cas dans certains bâtiments où il va circuler plus facilement que dans d'autres cas. Par exemple, si on a un bâtiment dont le sous-sol est construit sur la terre battue, là le radon va très facilement rentrer. Mais s'il y a un système de ventilation qui va sortir, il aura moins de chances qu'il monte, qu'il passe à travers la dalle, puis dans les pièces de vie. C'est vraiment une problématique liée au bâtiment, à la structure du bâtiment, à la configuration du bâtiment. Et j'allais dire qu'on a autant de bâtiments que de cas possibles, de quantités possibles de radon qui peut rentrer.
Et on parlera tout à l'heure des mesures possibles justement pour rendre les bâtiments plus sains au niveau de la qualité de l'air, pas seulement du radon d'ailleurs, on y reviendra. Mais avant cela, chez nous, vous disiez que dans cette région, déjà dans ce département, nous sommes affectés par ce souci du gaz, et dans la région PACA aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire quels endroits précisément?
Alors, en fait, du radon, il y en a partout. Dans tout le sous-sol en France, il y en a partout. Il y a certains endroits où il y en a plus que d'autres, puisque le radon, donc l'uranium au départ, va être beaucoup plus présent dans certaines roches, donc des roches d'origine magmatique, comme par exemple le granit. Et ces roches, elles se sont formées en profondeur. Lorsque la croûte terrestre refroidie s'est formée, ces roches étaient présentes en profondeur. Et du coup, dans les zones de montagne, même anciennes, ces roches qui étaient à l'origine en profondeur vont se retrouver proches de la surface. Lorsque les montagnes se sont formées, ces roches-là vont se retrouver au contact de la surface. Et donc, dans certaines régions de France, on a plus de radon qui émerge parce que ces roches sont plus proches de la surface. Et dans les régions de massifs, donc il y a, en France, il y a le massif central, le massif armoricain, donc région Bretagne, il y a un petit peu les Vosges, le Jura, les Alpes, les Pyrénées également. Sur la côte, on a le secteur de l'Estérel, par exemple, où il y a des émanations de radon plus importantes qu'ailleurs. Et dans les Hautes-Alpes, pour notre part, on est le département est un petit peu divisé en deux. On parle de potentiel radon, de la présence potentielle du radon qui émane des roches. Et cette proportion est un peu plus élevée dans la moitié nord du département. Pour savoir en fait ce qu'il en est, il existe des cartes accessibles à tout un chacun. Et pour les départements prioritaires, notamment par rapport à ce risque, on peut aller voir au niveau de sa commune dans quelle catégorie elle se trouve par rapport au risque radon.
Et où trouve-t-on ces cartes ?
Donc en allant sur un moteur de recherche, en tapant IRSN commune, on va aboutir très rapidement, c'est la première proposition en général que nous donne le moteur de recherche, sur connaître le potentiel radon de ma commune. On a les trois catégories qui sont expliquées et en dessous, on a une carte de France. Il suffit de rentrer le nom de sa commune et cette carte nous indique la catégorie. Catégorie 1, 2 ou 3. Et ces catégories représentent la quantité potentielle de radon qui peut émaner des roches.
La potentielle exposition aussi à laquelle
oui.
nous pouvons...
Donc c'est une indication, mais qui ne suffit pas forcément à savoir ce qu'il en est dans son bâtiment.
Oui, et vous proposez voilà. d'ailleurs de le mesurer, on va en parler. Je précise, IRSN, le site dont vous parliez, c'est l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire,
c'est ça.
Pour expliquer
oui.
Cet acronyme. Et on fait une petite pause musicale et on revient ensuite pour parler donc, de la mesure de ce gaz et comment s'en prévenir. Vous avez des solutions à proposer. On écoute tout de suite Weird Science de Oing Boing.
From my heart and from my hand, why don't people understand my intention? Weird science, elastic tubes and pots and pans, bits and pieces and magic from my hand will make.
Catherine Schlouk dans le magazine du Midi sur Fréquence Mistral. Catherine, animatrice au sein de Gap Science Animation 05 pour parler du radon, gaz naturel, rappelons-le, présent dans les maisons et qui peut avoir un risque quand même sur la santé, risque pulmonaire, risque de cancer des poumons.
Oui.
Donc c'est bien un gaz déjà naturel qui est en fait radioactif. C'est par la radioactivité qu'on a des risques de santé.
Oui, c'est ça. Donc c'est un gaz naturel, radioactif, qui émane des roches qui constituent le sous-sol. Donc ce gaz, il va ressortir des roches et on peut à ce moment-là l'inhaler. Et c'est au niveau des poumons que ce gaz radioactif va émettre donc un rayonnement et qui peut altérer les cellules pulmonaires. Donc c'est à ce niveau-là, effectivement, qu'on a une problématique de santé importante.
Donc en l'inhalant, en fait. C'est la radioactivité d'un gaz inhalé.
Oui. Donc le radon, en fait, va se mêler à l'air que l'on respire.
Oui, tout
ouais.
à fait.
Ouais.
Donc quand on parle de radioactivité, ça peut faire peur, quand même.
Oui.
Dans quelle mesure il faut s'en inquiéter?
Donc en fait, il faut s'en inquiéter si on est exposé à des quantités importantes. Tous les jours, on est exposé à de la radioactivité. Par le radon, certes, mais aussi par les examens médicaux que l'on peut faire, des radios ou des traitements. On est exposé par les matières radioactives qui se trouvent dans l'air, dans l'atmosphère, dans le cosmos. On est exposé à des substances radioactives qui sont présentes dans la croûte terrestre. Et pour une faible partie sur les résidus d'activités nucléaires, c'est ça. Mais c'est la plus faible partie. On a une exposition, j'allais dire naturelle. On est exposé tout au long de l'année à de la radioactivité. Le problème va se situer au moment où on est exposé à des quantités très importantes.
Donc on est exposé naturellement. Enfin, il peut y avoir une activité humaine comme le nucléaire, mais en très faible dose, ou les examens médicaux.
C'est ça.
Mais de toute façon, même s'il n'y avait pas ça, on a une exposition à la radioactivité. Le corps résiste à ça.
Il est exposé à de la radioactivité. Oui. Le problème va se situer pour le radon, en l'occurrence, sur le fait qu'il puisse rentrer dans les bâtiments et par le fait que dans les bâtiments, les espaces intérieurs, on y passe énormément de temps. Entre 80 et 90% de notre temps, c'est un temps qu'on passe à l'intérieur. Donc c'est les bâtiments, les maisons, le lieu de travail, ça peut être un commerce, un gymnase, un cinéma. On est essentiellement à l'intérieur. Et à l'intérieur, le problème du radon, s'il arrive à rentrer dans ces bâtiments, c'est qu'il peut se concentrer, s'accumuler. Si on ne le fait pas sortir. Donc on peut être exposé à des quantités importantes qui vont au-delà de la quantité moyenne de radioactivité à laquelle on est exposé tout au long de notre vie.
De notre vie, ouais. Oui. D'accord. Donc ça, on en parlait, on expliquait tout à l'heure dans la première partie de l'émission de comment le radon entre chez nous et reste, en fait, finalement. Donc vous proposez, on propose, il existe des dosimètres, donc des appareils de mesure pour connaître son exposition au gaz dans son intérieur. Ou
c'est ça.
Ça peut être au travail ou chez soi, j'imagine.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est cet appareil ?
Donc c'est un petit appareil. C'est pas un appareil électronique, c'est un appareil, un petit dispositif qui fait une mesure passive. Donc il y a un petit film comme un film plastique qui va être sensible au rayonnement. Donc le rayonnement radioactif va faire des tout petits trous dans ce film sensible. Et donc c'est un dispositif qu'on va installer dans les endroits, les pièces de vie, là où on passe le plus de temps en fait. Et sur la durée, on va exposer ces dosimètres pendant minimum 2 mois. Et on va le faire sur la période hivernale, entre novembre et avril, pour avoir une représentation de notre exposition à la radioactivité liée au radon, et une exposition qui va être celle la plus haute, c'est-à-dire l'hiver, notamment chez nous. C'est la période où on aère le moins.
Et on passe le plus de temps en intérieur.
Oui. Et du coup, c'est la période où le risque va être le plus important. Donc, on fait la mesure sur cette période-là. Et si on lisse les résultats sur l'année, donc sachant que l'été, on va beaucoup plus aérer, on a une valeur un petit peu plus basse, certes, mais au moins, on sait à quoi on va être exposé en termes de radioactivité liée au radon. Donc, voilà, une mesure passive, sachant que le radon, la quantité de radon peut évoluer au cours d'une journée. Si on aère, si on n'aère pas, ça peut évoluer. Ça peut aussi évoluer en fonction de la météo, de la pression de l'air, de l'humidité de l'air. Donc il y a plusieurs facteurs qui vont faire varier cette mesure, d'où la nécessité de faire une mesure sur la durée. C'est ça.
Combien de temps il faut le laisser, cet appareil ?
Donc minimum 2 mois.
Mais ça peut être plus.
Ça peut être plus, mais ça ne va pas changer énormément le résultat. 2 mois sont suffisants pour avoir une valeur représentative de son exposition à ce gaz.
Où est-ce qu'on le trouve, ce dosimètre, pour tester ?
Donc, il y a différents laboratoires en France qui les commercialisent et qui incluent donc, l'analyse, puisque l'analyse se fait en laboratoire. Donc, on peut acheter un dosimètre dans ces différentes structures et le poser. Et à la fin de la pose, de l'exposition du dosimètre, on le referme, on le renvoie en précisant bien les dates de pose, de dépose, et le laboratoire va faire l'analyse. Il va en quelque sorte développer le petit film qui est sensible, et par des des formules mathématiques un peu complexes,
qu'on expliquera on va pas aboutir, ici, je pense. Non.
On va aboutir en fait à une activité radioactive liée au radon, donc qui est exprimée en becquerel par mètre cube d'air. Donc ça, c'est une analyse qui est faite par le laboratoire et qui va renvoyer les résultats aux personnes.
En expliquant comment le lire, ou est-ce que c'est à nous de particulier de savoir le lire pour comprendre? Alors, la limite,
il existe, en fait, il n'y a pas de seuil de dangerosité. Et en fait, il existe une limite qui va nous inciter à faire vraiment attention, à mettre en œuvre des solutions de remédiation à cette situation. En fait, cette limite, elle est plutôt réglementaire. Donc, pour les lieux qui accueillent du public, il y a une obligation de mesure du taux de radon dans les pièces. Et pour ces lieux qui reçoivent du public, il y a une valeur seuil qui impose, si la valeur mesurée dépasse ce seuil, ça impose en fait de faire des travaux de remédiation. Ce seuil, il est à 300 becquerels par mètre cube d'air. Et on peut, nous, particuliers, s'en servir pour dire « Ah là, il faut faire quelque chose, il faut agir. »
D'accord. Mais ce n'est pas un seuil qui indiquerait un risque sûr de danger pour sa propre santé.
Ben le danger, il est vraiment lié à la quantité et à la durée d'exposition. Et ça reste une indication. Comme je le disais, il n'y a pas vraiment de seuil. Voilà, on est exposé à la radioactivité sur la durée avec des taux importants. Donc là, le risque, il augmente.
Et si on estime qu'on est peut-être exposé à ce risque depuis un certain temps, est-ce qu'il y a une démarche médicale pour se renseigner?
On peut, si on a des problématiques de santé liées au poumon, on peut évoquer la problématique radon, les mesures faites avec son médecin, mais ça va donner peut-être une indication de l'origine du mal. Il arrive parfois qu'il y ait des personnes qui développent des cancers du poumon mais qui ne sont pas fumeurs. En général, on associe le tabac au cancer du poumon. Là, on voit qu'il n'y a pas que le tabac qui est responsable. Mais au-delà de ça, voilà. La prévention va se situer au niveau de la mesure. Savoir ce qu'il en est chez soi, là où on passe le plus de temps. Et ça passe par on peut se renseigner sur la catégorie, effectivement, de la commune sur laquelle se trouve son bâtiment, mais ça reste une indication. On peut être dans une commune de catégorie 3, par exemple, et le radon est incapable de rentrer dans le bâtiment et on a des taux faibles à l'intérieur. On peut être dans une commune de catégorie 1, le radon rentre facilement et il peut s'y accumuler et atteindre des valeurs hautes. Donc l'action de prévention va être de savoir ce qu'il en est en mesurant effectivement le taux de radon et en mettant en œuvre des solutions pour pas qu'il s'accumule justement.
Avant de parler de ces solutions, une dernière question sur ce dosimètre. Donc on l'achète personnellement, c'est une démarche personnelle.
Oui.
Il n'y a pas de distribution dans la politique préventive.
Alors ça dépend des lieux. Mmh. Il y a parfois des campagnes de mesures et c'est le cas donc pour nous dans les Hautes-Alpes, mais uniquement, enfin pour nous, c'est le département qui est concerné par cette campagne de distribution de dosimètres. Donc l'ensemble de notre action de sensibilisation du public est financée par l'ARS PACA. Et dans ce cadre-là, dans le cadre de ce financement, l'ARS PACA nous met à disposition, paye des dosimètres, mais il nous demande de les distribuer à la population des Hautes-Alpes, puisque notre travail concerne cette population en particulier. Donc peut-être qu'il y a des démarches similaires dans le reste de la région.
Il faut s'enseigner.
Pour le moment, je ne sais pas où. Mais les dosimètres restent assez accessibles, puisque c'est environ une vingtaine d'euros pour un dosimètre. Donc voilà, ça reste accessible. Dans les Hautes-Alpes, nous, on a une dotation de quelques dosimètres que l'on va distribuer au public qui souhaite faire la mesure, mais il faut que ce soit un bâtiment qui se trouve dans le territoire.
Dans sur le territoire des Hautes-Alpes. Oui, donc quand vous dites vous, c'est vous au GSA 05.
Oui, c'est ça.
D'accord. Il y a d'autres distributeurs ou c'est vous particulièrement?
C'est nous, ici dans le département. J'en connais pas d'autres.
Donc on pourra éventuellement donner vos contacts à la fin de l'émission et puis on le mettra en ligne sur le site de Fréquence Mistral en accompagnement de l'émission en replay.
Sachant que les dosimètres vont arriver courant novembre. Donc on est toujours dans la période de mesures.
Courant novembre, très bien. Alors les mesures préventives quand même, quelles solutions apporter pour essayer de renouveler l'air de son espace?
Voilà, c'est ça, c'est la solution. C'est d'une part empêcher le radon de rentrer. Donc là, on peut jouer sur les passages potentiels du radon dans le bâtiment, donc boucher les fissures, vérifier... Voilà, qu'il n'y ait pas de passage flagrant de l'air, donc du radon.
Depuis les sous-sols, principalement.
Depuis le sol, sous-sol. Si on est dans la construction, dans le neuf, il existe des solutions qui est possible de mettre en place pour limiter donc cette entrée d'air et cette entrée de radon. Et là, on est sur des questions plutôt techniques. Pour notre part, parmi les actions qu'on mène, il y a une sensibilisation des professionnels du bâtiment. Et là, on fait appel à des spécialistes qui viennent expliquer concrètement comment on peut prendre en compte le radon dans la construction.
Donc, c'est des formations, vous proposez, vous,
c'est
des formations?
C'est des sortes de conférences, formations, des journées de sensibilisation des professionnels du bâtiment. Ça peut être des architectes, ça peut être des maîtres d'œuvre. C'est aussi ouvert aux élus et on mène ces actions-là en partenariat avec le CAUE des Hautes-Alpes,
le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.
C'est ça, des Hautes-Alpes. Et donc avec eux, on organise ces temps pour les professionnels du bâtiment. Et donc ça permet de sensibiliser les professionnels du bâtiment qui le sont très peu ici dans la région, puisque c'est une problématique assez récente. Comme on le disait tout à l'heure pour le grand public, c'est peu connu. Donc le grand public qui fait la mesure pour connaître le taux de radon dans son bâtiment et qui ensuite a la volonté de faire des travaux de remédiation, il faut qu'il puisse s'adresser à des professionnels qui sont au courant de la problématique, qui savent comment y répondre. Et ce n'est pas encore bien développé dans les Hautes-Alpes.
Donc encore à développer, d'où la sensibilisation. Et il n'y a pas de réglementation, comme on disait, en plus obligatoire, donc, sauf pour
Pour les particuliers, il n'y a aucune obligation. La seule obligation, c'est de mentionner la catégorie de la commune dans les documents de vente ou de location de bâtiment, mais sinon pas d'obligation légale. Les obligations se situent pour les établissements recevant du public.
Existe-t-il des aides de l'État pour les particuliers?
Non, à ce jour non. Il existe des aides pour les questions d'énergie, mais pour le radon non.
Donc c'est tout à chacun de se renseigner et de prendre des mesures. Si j'ai une question, une interrogation, vers qui les auditeurs et les auditrices peuvent se tourner?
Donc, on peut répondre dans la mesure de nos compétences.
Donc vous, le GSA 05,
on a des bureaux à Gap. On va organiser, là très bientôt, ça va commencer dès qu'on aura reçu nos dosimètres, on va organiser des temps d'information pour le grand public avec distribution de dosimètres, donc dans différents lieux du département. On a créé des outils pour sensibiliser le public, donc pour faire connaître la problématique, donc on va utiliser ces outils-là. Donc pas mal de moments où on peut répondre au public, et sinon c'est un coup de fil, et on peut aussi orienter les personnes vers des structures plus spécialisées, selon les questions.
D'accord. A-t-on parlé de tout et manque-t-il une information sur le radon que vous voudriez ajouter peut-être?
Je crois qu'on a bien fait le tour.
On a bien fait le tour. En tout cas, vous avez plein d'outils, vous, oui, comme vous disiez.
Oui, tout à fait. S'il y a des communes ou des bibliothèques, des lieux qui accueillent du public, qui veulent sensibiliser leur public à ces thématiques-là, ils peuvent nous appeler et on peut organiser quelque chose. On a donc un financement qui nous permet de proposer des temps d'information, des animations sur ces thématiques-là pour tous les publics, donc gratuitement pour les structures qui voudraient faire appel à nous. On a plein de choses, on a une exposition sur le radon, on a des temps d'information, on a un escape game, vraiment beaucoup d'outils pour vraiment informer, sensibiliser tous les publics, y compris les enfants.
Et donc, on le rappelle, ce radon est un gaz naturel qui est radioactif, qui est dangereux pour la santé au niveau pulmonaire à partir d'un certain niveau d'exposition. Pas de panique tout de suite à bord. Il y a des moyens de mesurer tout ça et de prévention.
Et de se
au même titre, finalement, que de risque de pollution de notre air en général. Vous le disiez dès le début. C'est dans ce cadre-là que vous êtes intéressé au radon.
Donc, nous, on s'est intéressé au radon puisqu'on répondu, donc c'est un appel à projet, sur la qualité de l'air intérieur. C'est une problématique de santé publique importante qui est prise en compte partout en France et en région PACA également. Et la qualité de l'air intérieur, c'est pas que le radon, c'est aussi de nombreux polluants qui sont même spécifiques aux intérieurs et qui peuvent, comment dire, être plus nombreux à l'intérieur par rapport à la pollution extérieure, par effet de concentration, de confinement. Et ces polluants, ça peut être des COV, les composés organiques volatiles, qui rentrent dans la composition de plein de produits de notre quotidien. Ça peut être des particules fines, ça peut être le radon. Donc il y a de nombreux polluants de l'air intérieur à prendre en compte.
À prendre en compte, donc il faut toujours aérer hein, le
voilà,
premier,
même solution, en hiver. La solution, voilà, c'est de pas faire rentrer ces polluants dans l'air intérieur, là où on passe le plus de temps. Donc ne pas les faire rentrer, c'est pour le radon, boucher les entrées, mais pour les autres polluants, c'est choisir les produits qu'on utilise chez soi, choisir des produits les moins polluants possibles, donc ne pas les faire rentrer, trouver des alternatives.
Produits, ça peut être produits ménagers.
Ça peut être produits ménagers, ça peut être les bougies, les parfums d'intérieur, ça peut être plein de choses qui vont émettre des substances dans l'air intérieur et que l'on potentiellement qu'on peut inhaler. Donc voilà, trouver des alternatives plus saines. Et pour cela, il faut savoir qu'est-ce qu'on a chez soi, qu'est-ce qui est polluant de l'air, comment s'en prémunir.
Et ça, c'est aussi encore
c'est
une démarche.
C'est aussi la sensibilisation.
La sensibilisation,
tout à fait.
On n'est pas toujours au courant de tout cela. Donc, c'est un autre sujet. On peut aussi se rapprocher du GSA 05 pour le savoir. Merci Catherine Schlouk. Donc, vous êtes animatrice au sein de GAP Science Animation 05. Merci d'être venue.
Merci à vous.
Dans notre émission, il est temps de se quitter. Rendez-vous demain à 12h10 dans notre magazine À la bonne heure avec Nathalie depuis Manosque. Bon après-midi à toutes et tous. It's in the air.
und mich im All entsteht.
Radioactivity. Das sind die